Allez, on y va, c'est prêt, c'est parti.
RVE, bonne matinée. Il est 11h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, voici la rétrospective de votre actualité cette semaine. Alors évidemment, les intempéries ont fait la une, on ne va pas en reparler, on va plutôt reparler d'un dégel, mais pas d'un dégel météorologique. La réconciliation et la paix par le sport en Corée du Nord. Le chef d'État nord-coréen Kim Jong-un a donné lundi le premier signe que son pays pourrait participer le mois prochain aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, en dépit des tensions suscitées par ses ambitions nucléaires. Premier signe d'ouverture, et toute la semaine, les deux capitales ont tricoté une à une ensemble à distance l'écharpe de laine de la réconciliation, en tout cas du rapprochement. Nous sommes disposés à prendre les mesures nécessaires, y compris envoyer notre délégation, a déclaré la Corée du Nord. Puis le téléphone rouge a été rétabli entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est le dictateur Kim Jong-un qui a ordonné ce rétablissement. Ce téléphone, unique moyen de communication entre les deux capitales, était coupé depuis 2013. La Corée du Sud a fini par faire une proposition de date pour une rencontre non loin de la frontière entre les deux nations, et la Corée du Nord a accepté quelques heures plus tard cette proposition d'entamer des discussions bilatérales. Ce sera mardi 9 janvier. Le sujet principal de ces discussions sera la participation d'une délégation nord-coréenne aux Jeux Olympiques de Pyeongchang le mois prochain. Tout un symbole, et on imagine que ça passe très mal du côté de la Maison-Blanche. D'ailleurs, à Washington, peut-être que la question du chantage est déjà envisagée. C'est ce qu'a affirmé un sénateur républicain de Caroline du Sud. J'ai l'intime conviction que si la Corée du Nord se rend aux Jeux Olympiques, nous n'irons pas, a-t-il déclaré. Dans l'actualité cette semaine, il y a eu aussi eu les agressions contre les policiers, avec ce passage à tabac de policiers lors de la nuit du 31 décembre, violemment tabassés. Les images ont été filmées par les émeutiers et postées sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron a fermement condamné. 24 heures plus tard, nouvelle agression dans les mêmes circonstances en région parisienne. Là encore, deux policiers isolés se retrouvant pris à partie. Et là encore, à chaque fois, l'un des deux policiers obligé de dégainer son arme de service et de la pointer pour se protéger son collègue. À chaque fois, on passe pas très loin du drame. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une société de la violence. Les policiers ont commencé à manifester leur colère. Des rassemblements ont eu lieu cette semaine partout en France. Ils seront reçus, en tout cas les syndicats seront reçus mercredi par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et puis on a appris cette semaine que les Français sont de plus en plus optimistes. Sondage Harris Interactive pour M6. 60% d'entre eux sont optimistes pour la nouvelle année 2018. Français optimistes, mais Français divisés. 6 Français sur 10 sont favorables à la procréation médicalement assisté pour les couples de femmes homosexuelles, à savoir faire un enfant sans père. Sondage IFOP publié dans le quotidien La Croix, que d'aucuns ont présenté comme un progrès, mais une autre interprétation est possible, comme celle de la Manif pour tous, qui affirme que l'opinion publique peut basculer, que au contraire ce sondage montre que le sujet divise profondément les Français. Tous ces sujets d'ailleurs de vie et de mort, ce qu'on appelle la bioéthique, c'est effectivement un terrain crispant. Comme ce dernier événement en date, tombé vendredi, le Conseil d'État a donné raison aux médecins d'un hôpital français qui a ordonné l'arrêt des traitements d'une adolescente de 14 ans en état végétatif depuis juin. Les parents ne voulaient pas arrêter les soins pour leur fille. Les médecins étaient d'avis contraire. La décision des médecins de laisser mourir répond aux exigences prévues par la loi, a décidé le Conseil d'État. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
Voilà, il est bien 11h03, messieurs, et pas 10h03, comme dit dans la précipitation, mais on est content tellement d'être avec vous qu'on voudrait encore un peu plus longtemps. Allez, on va parler golf. Hervé, hein, et je sais qu'il a travaillé toute la nuit pendant des jours et des jours. Non, simplement pour dire que donc Tommy Wedgwood, l'anglais, s'est imposé à l'Open de France à Saint-Quentin en Yvelines. C'est tout près d'ici. Mike Lorenzo Vera, le français, termine troisième. Il y aura un énorme événement, ça sera la Ryder Cup, oui. Hein, c'est-à-dire l'Europe contre les États-Unis. Oui. Ça sera donc en septembre 2018. Ça sera un énorme événement, peut-être même l'événement sportif dans notre région, Hervé.
Oui, non, mais c'est sûr, on en parle beaucoup, il y a eu beaucoup de pubs, je pense que c'est un événement qui va être très fort pour les Yvelines.
Oui, et puis donc, bien, l'Open de France, c'est l'équivalent pour le golf de ce qu'est Roland-Garros pour le tennis, voilà.
Et voilà.
Très bien, alors le tennis, on en vient, hein. Donc Federer qui gagne Melbourne et Wimbledon, Nadal qui gagne Roland-Garros et Flushing Meadows, ils sont donc à eux deux, eh bien, les sportifs mondes de l'année. 19 tournois du Grand Chelem pour le Suisse, 10e Roland-Garros pour l'Espagnol, on notera aussi la victoire de Sok à Bercy et de Dimitrov pour le Masters chez les hommes.
Oui.
Oui.
Bah, Je crois que c'est effectivement au niveau de... Ah, effectivement, bon, faut pas aussi oublier les blessures de Djoko et de Murray, Djokovic. Mmh. Mais effectivement, le 10e titre de Nadal à Roland-Garros, absolument inimaginable. Et aussi, juste derrière Roger, effectivement, qui a repris cette compétition justement 6 mois avant et qui gagne l'Open d'Australie contre Nadal, qui avait fait aussi demi-finale contre le Wawrinka et avant aussi contre le japonais Nishikori, qui sont des matchs en 5-7 à chaque fois, qui sont très très durs, et on voit l'évolution, même à cet âge-là, l'évolution du jeu de Roger Federer. C'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique et incroyable.
Les anciens se portent bien, donc, finalement.
Comment ?
Les anciens se portent bien dans le tennis.
Je pense, de façon générale, ouais. Tous les sportifs, on voit la qualité physique qui est de plus en plus fondamentale et nécessaire pour effectivement pouvoir continuer et prolonger.
Alors Hervé, nous on a eu l'occasion de vivre une journée sur Roland-Garros, sympa, c'est un village. Ça, c'est un des faits importants.
Enfin, Roland-Garros, on en reparlera peut-être avec la Coupe Davis qu'on a gagnée.
Oui.
C'est une histoire palpable qui a été créée justement à cause de la Coupe Davis quand on a gagné aux États-Unis. Et là, ce qu'on peut dire aussi au niveau de Roland-Garros, c'est tous les gros travaux qui a lieu en ce moment pour l'extension du stade, puisqu'effectivement Roland-Garros se conserve sur son site. Et là, bon, on le voit pas trop, mais là, pendant 11 mois, il y a énormément de travaux qui sont en cours.
Tiens, ça me fait penser que la Fédération française de tennis, en cette année 2007, a changé de président. C'est M. Gulicelli, donc, qui a été élu, comme M. Collot a été élu à la tête de la Fédération française de cyclisme. Et que donc, on n'oubliera pas non plus, Olivier, que David Laparcien devient président de l'UCI. Voilà, c'est important, il fallait le dire. Voilà.
Donc, avec aussi, quand tu dis de Gulicelli, un programme très fort pour sa mandature, et il y a déjà beaucoup de nouvelles choses qui sont appliquées et qui vont continuer.
Alors, chez les femmes, ça a été beaucoup plus varié. Hein. Serena Williams gagne à Melbourne, Ostapenko gagne sur Roland-Garros.
Les deux sœurs d'ailleurs, hein. C'était la première fois qu'on revoyait les deux sœurs gagner.
Muguruza gagne à Wimbledon, et Stéphane s'impose à Flushing Meadow et Wojnarowski au Masters. Comment expliquer que cette diversité chez les femmes?
Alors, c'est pareil. Enfin, on a toujours un peu ce problème. Alors, effectivement, le Williams, qui là, effectivement, caracole en tête. Là, effectivement, elle a vu son interruption avec la naissance de son enfant. Mais autrement, on le voit à Roland-Garros. Ça a été une surprise. On aurait tous pensé à Alep. Et effectivement, c'est une autre jeune qui arrive. Voilà, de ce côté-là, c'est un peu en dents de scie, mais bon, ça permet de voir des nouveautés.
Ouais. Autant chez les hommes, les anciens se portent bien, ou Nadal Federer, autant chez les femmes, c'est beaucoup plus varié. Il y a personne qui domine vraiment et qui écrase complètement.
Oui. Par contre, bonne surprise aussi pour Garcia, qui c'est Caroline, qui là a une belle saison, une bonne fin de saison surtout, qui s'est un peu écarté de la Fédé, qui a voulu voir un peu de son côté, toujours suivi par son père. Et bien lui en a pris, parce qu'effectivement elle a fait une très bonne saison, et là faut la féliciter à ce niveau-là.
Alors justement, pour revenir chez les femmes, eh bien la Fed Cup a été remportée par les USA, qui ont battu la Biélorussie 3-2. L'équipe de France s'incline en quart de finale face à la Suisse, 3-2 sur le même score. Et puis la bonne nouvelle chez les hommes, c'est enfin la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis, 10e Coupe Davis, hein, l'équipe de France qui bat la Belgique 3-2. Et c'est quand même le 3e succès pour Noah chez les hommes, et le 4e au total, puisqu'il a gagné aussi une Fed Cup. Yann Maginoa.
C'est une bonne question. Il y a tellement d'éléments.
Chaque fois qu'il vient, on gagne.
Oui,
non, c'est vrai.
Mais il y a tellement d'éléments qui sont pris en ligne de compte dans ces rencontres. Enfin, c'est sur toute une année aussi. Il y a un planning extrêmement chargé au niveau des joueurs et des joueuses. Il y a certainement un élément que Yannick possède et qui fait que effectivement on puisse arriver à gagner de cette façon. Je voulais juste revenir avant au niveau de la Fed Cup, parce qu'effectivement faut dire aussi que Yannick est capitaine de la Fed Cup et de la Coupe Davis.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a gagné 4 fois. Voilà. Une fois chez les femmes et 3 fois avec les hommes.
Et effectivement, ils ont perdu là le 11 et 12 février en Suisse, à Genève. Et ils ont été en barrage. Ils ont été battus par l'Espagne 4-0. Et là effectivement, là, il faut retrouver. J'espère que Caroline Garcia va revenir avec l'équipe de France et va faire vraiment une structure avec notamment Alizé Cornet, pour que justement on puisse repartir, puisque Mauresmo avait été absente aussi avec une naissance, qui puissent retrouver cette Fed Cup qui vraiment aussi au niveau des femmes nous avait enchanté ces dernières années. Ça c'était vraiment important. Pour en revenir à la Coupe Davis avec Yannick. Alors effectivement la dernière fois c'était quand même très dur puisqu'on avait fait on était tombé contre le numéro 1, le numéro 3 avec Wawrinka et puis Roger. Là effectivement on a pu passer avec certaines défections, mais on a pu voir que déjà effectivement tu dis Yannick a su motiver
parce que il faut rappeler que les trois dernières finales on les avait perdues hein, 2002, 2010, 2014 et à domicile en plus.
Comme je te le dis, les contextes sont pas du tout les mêmes. Donc Yannick est revenu, il y avait quand même beaucoup plus de facilité comme je te le dis, avec certaines défections. Mais enfin, il a su donner la manière et autres. On l'a bien vu notamment avec l'équipe de double puisque tout le monde était très surpris de cette composition. Et donc il a su faire le bon choix, et nous avons pu savourer. Au bout de 16 années, quand même, il a fallu attendre 16 ans pour pouvoir de nouveau gagner cette troisième Coupe Davis avec Yannick.
Oui, et donc la dixième au total hein, dans l'histoire du tennis français. Allez, sur le plan local, une compétition qui nous est chère, les trophées Hervé, gagné par Cernel Abbey cette année, Hervé, et auquel naturellement vous participez très largement avec votre sélection.
Voilà, on remercie RVE. Non, on avait déjà beaucoup échangé là-dessus. Non, mais c'est une compétition locale qu'on aime beaucoup. Un peu comme les Masters Sud. Quelque chose qui est très, très bien.
Jean-Louis Mazard, ouais.
Avec 8 clubs. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, de faire au niveau des jeunes uniquement. Et voilà. Donc, on remercie encore RVE pour son investissement aussi à nous faire de la pub là-dessus. Puisqu'il y a, je crois qu'il y avait 10 départements différents. Il y a plus de 1000 joueurs qui avaient participé sur les 8 clubs. Donc, c'est quelque chose déjà qui est important. On va essayer de faire ça pour cette année aussi, essayer de faire concerner la c'est plus notre ligue, c'est notre comité maintenant. Donc parce que c'est pareil, nouveauté au niveau de la régionalisation des territoires, c'est que j'étais encore là au mois de décembre à l'Assemblée Générale, la première Assemblée Générale de la Ligue des Yvelines. Il faut savoir que la Ligue d'Île-de-France de tennis représente quand même un peu plus de 25% des licenciés de la France, la Fédération Française de Tennis, pardon.
Très bien, merci Hervé. On va parler au sport mécanique maintenant, auto-moto, avec notre ami Stéphane Kang, qui vient souvent nous parler de l'actualité de ses disciplines favorites. Ça va Stéphane?
On a vécu une
belle année. Alors d'abord, une bonne nouvelle. La France va retrouver un Grand Prix de Formule 1, ce sera le 24 juin, on sera en plein mondial de foot, mais on aura un Grand Prix de France au Castellet.
Exactement, Cap au Sud, Cap au Soleil, voilà, le Grand Prix de France revient, il sera d'ailleurs en direct sur TF1.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est 4 Grands Prix vont être diffusés en clair cette année par TF1, Grand Prix de France, Monaco. Deux autres grands prix à déterminer, mais bon, c'est bien, la F1 revient, on a des pilotes français qui arrivent, des jeunes. Pour la première fois, on va avoir 3 nouveaux pilotes français, plus Charles Leclerc, le monégasque, on peut presque dire les 3,5-4. Deux jeunes, Pierre Gasly, Esteban Ocon qui était déjà là.
Oui, alors tiens, justement, je voulais en parler d'Ocon, parce qu'à la soirée sportive d'Île-de-France du Conseil régional, il a été récompensé car il est francilien.
Oui, enfin,
il est du 93.
Il est
du 93.
Natif d'Evreux, enfin, voilà. Effectivement,
il appartient à un club du 93.
Tout à fait.
Alors, est-ce que ça vient, tout ça, parce que Bernie Eccleston a laissé ses droits F1 donc à Charles Carré, le patron de Liberty Media?
On peut se poser la question, hein,
c'est important,
les choses changent, ils essayent de renouveler un petit peu le spectacle, les cadres évoluent. Bon, peut-être que ça amène, et puis aussi il y a une génération de jeunes pilotes en France qui sont très performants, on leur laisse leur chance, donc voilà, ça joue.
Alors, donc, quatrième succès pour Hamilton, comme champion du monde de Formule 1 des conducteurs. Mercedes qui gagne chez les constructeurs, Hamilton en
encore
individuel.
Une fois, Hamilton rejoint Alain Prost et Sébastien Vettel. 4 titres de champion du monde, ça y est, il est là. Juste au-dessus de lui, il y a Fangio qui en a 5, et puis Schumacher qui reste tout en haut avec 7 titres. Mais effectivement, très bonne saison pour Hamilton. Il était mal parti, c'est vrai que jusqu'à mi-saison...
Il a fait le trou en deuxième partie de saison.
Exactement, malheureusement, Ferrari s'est un petit peu écroulé. Il a fait une très bonne fin de saison et il l'emporte finalement assez facilement, alors qu'au début c'était mal parti.
Ça a été une belle saison parce qu'on a souvent critiqué le manque de spectacle de la Formule 1 ces dernières années.
Ouais, mais les Formule 1 cette année étaient un peu plus sympa à regarder. Au niveau pneumatique, ils ont changé un petit peu la donne. On avait un peu plus de grip. Les moteurs étaient un peu plus bruyants. Ils ont augmenté le spectacle, enfin ils ont voulu rendre la chose un peu plus spectaculaire, comme on aimait la F1 dans le temps. Il faut voir que la F1 malheureusement avait évolué peut-être dans un sens qui n'était pas très très spectaculaire, donc là ils ont su renouveler de ce côté-là, donc effectivement on a eu des très belles courses, Par contre, Mercedes reste quand même un petit peu au-dessus du lot.
Ils gagnent chez les constructeurs.
Ils gagnent chez les constructeurs largement, parce qu'en fait, chez Ferrari, finalement, Vettel est le seul à avoir gagné des Grands Prix. Raikkonen n'a pas pu en gagner, alors que chez McLaren, ils se sont partagés un peu les victoires entre Hamilton et Bottas. Mm-hmm. Renault est juste derrière, parce que finalement, le moteur qui était rebadgé Tagayoer gagne quand même 3 Grands Prix, ce qui est pas mal. Renault revient, ils vont mettre un peu plus de moyens cette année pour essayer d'être un peu plus performants. Ils ont de nouveau un nouveau pilote avec Sainz Junior qui arrive, donc bon, faut y croire. Renault revient pour le Grand Prix de France, ça va être bien, ça va être la fête. Je crois que beaucoup de places ont été déjà, enfin, sont vendues, il y a pratiquement plus de places de libre, donc bon. Mmh. On le verra à la télé.
Alors pour les rallyes, Sébastien Ogier donc remporte donc un 5e succès. Alors, il est pratiquement sur les traces de l'Aube qu'on a
tout
gagné.
Tout à fait. Bah là justement, quand on parlait tout à l'heure du sport en France qui a du mal à se renouveler, là on arrive quand même au 14e titre de suite. Donc là, je pense qu'on est quand même largement au-dessus du lot. Nos amis finlandais sont loin derrière maintenant.
Et pourtant, Dieu sait, les Flying Finns,
ils ont survolé les débats pendant de nombreuses années, donc effectivement Ogier. Alors cette année a été très difficile pour lui. Il a été très régulier parce qu'en fait finalement dans l'histoire des rallyes, c'est la première fois que le champion est titré avec aussi peu de victoires en spécial.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a pas du tout dominé cette année. C'est vrai que Neuville, le Belge sur sa Hyundai, était largement au-dessus. Il remporte 4 victoires et il aurait pu en remporter plus s'il avait été plus fiable et avait commis un petit peu moins d'erreurs. Donc au bout du compte, c'est la régularité qui a payé. M-Sport avec la Ford
gagne
chez les constructeurs, parce que là par contre la différence de Hyundai, c'est que les 3 pilotes, c'est assez rare dans la discipline, les 3 pilotes ont gagné un rallye au moins cette année, ce qui est peu commun. Donc en fait, bon matériel, fiable, Ogier a commis très peu d'erreurs, s'il n'a pas gagné, était toujours sur le podium, bien placé dans les spéciales, il est parti fort, il a gagné le Monte Carlo, qui est un rallye assez difficile.
Rallye mythique en plus.
Rallye mythique, il va bientôt, il aura bientôt lieu, donc la saison repart. Et donc voilà, une belle saison finalement, et d'ailleurs il est sacré pilote de l'année par nos confrères d'Auto Hebdo, ils l'ont élu et de loin, donc 5e titre, rien à dire. Deuxième titre chez un deuxième constructeur, par exemple, à l'inverse de Sébastien Loeb qui a toujours été titré chez Citroën, là c'est quand même chez un deuxième constructeur. Ford revient, donc on peut espérer avoir un peu plus de moyens pour l'année prochaine et peut-être qu'il brillera un 6e titre. Je suis pas sûr parce que la concurrence est quand même est là et il progresse.
Alors, il y a un Grand Prix électrique effectivement qui est fait sur Paris. Je voulais en parler un peu, mais bon, il y a
Tout à fait.
Bah, la création d'un nouveau Grand Prix.
Ça c'est la formule électrique. C'est l'avenir. Est-ce que c'est l'avenir? C'est une autre discipline, c'est complémentaire. Voilà. Est-ce que ça prendra la place de l'F1? C'est pas sûr. Ce sont surtout des grands prix urbains. C'est moins spectaculaire quand même. C'est moins puissant.
Oui,
c'est
un fan de sport automobile, il dit que s'il n'entend pas le bruit du moteur,
venez aux 24 heures du Mans. Venez aux 24 heures, on va parler de championnat du monde d'endurance, venez. Venez vivre ces moments-là, même en rallye. Cette année, les voitures ont été beaucoup plus spectaculaires. On a augmenté la puissance. Elles ont été, on a progressé dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'une voiture de course sans bruit,
C'est pas pareil. Alors justement, les 24 heures du Mans, ça fera plaisir à Denis qui est du Mans. La célèbre épreuve, les Porsche LMM Team 99 avec Bernard, Bambers et Hertel s'imposent dans la 85e édition.
Exactement, 20e victoire de Porsche, on en avait parlé, on a fait une petite spéciale là-dessus. Et Porsche qui gagne pour la 3e fois de suite, donc qui ramène le trophée chez eux, c'est-à-dire qu'il y a quand même tradition aux 24 heures du Mans, quand un constructeur l'emporte 3 fois de suite, il gagne le trophée. Donc ça oblige la CO à refaire le fameux trophée. Donc là c'est reparti pour un tour. C'est Audi qui l'avait remporté la dernière fois, qui avait pu aligner 3 victoires de suite. Donc bon, Porsche champion du monde, pareil. Ils ont, avec un peu de chance, Toyota en fait a une victoire de plus au final, mais comme les 24 heures du Mans comptent double, bon finalement c'est Porsche qui est champion du monde une fois de plus. Donc ils se retirent. Eux vont effectivement aller vers la formule électrique, pas l'année prochaine mais dans 2 ans.
Voilà. Et puis pour les rallyes raids, on va quand même rappeler la victoire de Peter Ancel-Cotteret en auto, de Sunderland en moto, Nikolaïev en camion et Kazaking en quad sur le Dakar 2017. Peter Ancel gagne 7 victoires en auto et 6 en moto. Dakar
là,
qui part de Lima au Pérou
parti,
là, ce week-end.
Ils sont partis. Ils doivent dormir vu l'heure qu'il est. Mais première étape,
oui, 5h du matin.
Première étape aujourd'hui. Donc l'OB participe. Et pour en revenir au rallye, Loeb va revenir l'année prochaine. Il va faire 3 rallyes aussi pour Citroën. Donc il est prévu pour le Tour de Corse, le rallye de France, le rallye d'Espagne et le rallye du Mexique. Voilà, il va concourir 3 fois. Et donc voilà, bah là il est sur les pistes du Dakar et bonne chance à lui parce que c'est peut-être la dernière possibilité pour lui de l'emporter. Donc bah on est derrière lui et puis on espère que ça va bien se passer.
Voilà, et puis en moto, on va rappeler que Dimeguillo Kameka Sheka sur la Yamaha, eh ben ils font le doublé, ils gagnent les 24 heures du Mans et puis le Bol d'Or, c'est un bel exploit.
Ouais, bon encore une fois équipage performant avec un petit peu de chance quand même parce que en moto c'est quand même faut une part de chance, beaucoup plus que sur 4 roues, mais bon, ils l'emportent, rien à dire.
Et Marc Marquez donc en moto GP, Franco Morbidelli en moto 2 et Joan Mir en moto 3 sont champions du monde cette année dans enfin, 2017
Marquez
dans la catégorie.
Début un petit peu difficile, début de saison qu'il a pas dominé mais finalement il termine très bien et bon il devient champion. Rossi bon un petit peu sur le déclin et puis surtout ben on a Zarco notre jeune qui arrive très performant au Mans pour le Grand Prix de France, il était en tête à peu de tours de l'arrivée, c'était une belle baston comme on dit chez nous et bon finalement il fait une très belle saison pour un débutant même s'il est loin d'être débutant en moto mais bon l'avenir est là et on a plein de jeunes pilotes aussi bien en deux roues qu'en quatre roues pour l'année prochaine donc voilà, on est plein d'espoir.
Merci Stéphane. Allez, la pub, la musique. Ensuite, on prend la mer avec Denis Gallienne. On parlera ballon ovale et ballon rond ensuite. On y va.
À Rambouillet, 14 rue Chal, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste Isofrance vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, store, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chal, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrèze. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 90. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. RVE.
Voilà, 11h27 minutes, on apprend le décès donc de France Gall à l'âge de 70 ans. Hein. Elle avait été notamment vainqueur du Grand Prix de l'Eurovision pour Luxembourg en 1965 avec donc la chanson Poupée de cire. Donc triste nouvelle ce matin, le décès de France Gall à l'âge de 70 ans. Denis, on repart sur maintenant la mer, la voile, avec donc une année marquée par Armel Leclerc, le Vendée. Hein, vous êtes venu en parler donc à l'antenne, hein, qui s'impose devant Alex Thompson. Et puis en pulvérisant donc le record de François Gabart, hein, 74 jours, 3h35 minutes, 46 secondes. Jérémy Meilloux termine troisième. On a eu la chance d'avoir aussi Jean Lecam au téléphone. Le Vendée, c'est une immense compétition sportive. Hein. Beaucoup de respect pour tous ces sportifs.
C'est l'année de champions. C'est l'année de tous les records pour le Vendée, ouais, en termes de présence de la population sur le port des Sables au moment du départ et aussi au moment de l'arrivée. C'est 6 skippers qui arrivent en moins de 80 jours, ce qui les placerait en tête de l'édition d'il y a 8 ans. Donc c'est extraordinaire. Et surtout les 4, 5 et 6e qui arrivent à 4 heures d'intervalle dans le port des Sables au bout de 80 jours. Ce qui fait qu'on se rapproche maintenant même d'une régate autour du monde plutôt qu'une course au large classique comme on avait l'habitude de connaître.
Alors ça a été une grande année voile, hein, puisqu'on a eu aussi Francis Joyon et son équipage d'export qui ont bouclé le tour du monde sans assistance et remporté le trophée Jules Verne en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Le team New Zealand qui remporte donc le bateau néo-zélandais, l'America Cup. Le record de la traversée de l'Atlantique pour Thomas Coville en 4 jours, 11 heures et 10 minutes. Le record de la traversée du tour du monde pour François Gabart, 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. Il pulvérise le record de Thomas Coville.
De 6 jours,
hein, qui avait été donc battu fin 2016, je crois. Et puis Thomas Coville et Jean-Luc Elias, qui sur Solido gagnent la Transat Jacques Vabre en double, en 7 jours, 22 heures, 7 minutes et 27 secondes, record pulvérisé. Jean-Pierre Dick et Yann Elias remportent, eux, dans la catégorie IMOCA l'épreuve, en 13 jours, 7 heures, 36 minutes et 46 secondes. Comment on explique qu'on batte de plus en plus des records? C'est la technologie. S'arrêter quand on voile?
Il y a deux choses. Il y a la technologie et aussi le côté professionnel des équipes, ça devient maintenant des écuries. On rejoint le monde de la sport mécanique. Ouais. D'ailleurs, tu as cité Jean-Pierre Dick a annoncé qu'il arrêtait donc la compétition et va se consacrer maintenant au management, entre autres de Yann Elias, mais il va faire d'autres managements également. Donc, on est sur des structures de plus en plus professionnelles. Et on est en train de quitter le monde de l'aventurier classique qui partait avec son bateau et qui essayait, en regardant les nuages et les vols des oiseaux, comment il pouvait faire le tour du monde.
Loin de Tabarly, quoi, qui partait sans radio.
Mais loin également de gens, on parlait de Jean Lecam et des gens comme ça, qui sont les dernières générations gens qui partaient. Jean, qu'on en avait cité, il était parti, il n'avait pas de structure technique au sol. Hein.
La meilleure preuve, là, c'est d'ailleurs Gabart, qui n'était pas encore arrivé là, pendant le Vendée Globe, qui était interviewé déjà et qui disait, oui, on a fait des erreurs de choix, même tactiques et autres, et on peut encore améliorer le progrès. Hormis les progrès techniques, on peut encore améliorer, ne serait-ce que dans la navigation.
Il reste une problématique pour battre Gabart maintenant, c'est que il y a le côté humain qui rentre en ligne de compte. Il est jeune, il est sorti rincé son truc. Hein.
Donc, il disait, il dormait par tranche de
tranches de 20 minutes, 25 minutes, et donc c'est des gars qui arrive aujourd'hui rincé, donc là maintenant pour remplacer ce côté-là, ça va être difficile. Ceci étant, pour resituer parce que tu as oublié quand même une chose qui est importante.
Sur
l'année 2017, c'est que Gabart, pendant son périple autour du monde, il a battu un record qui est le record de distance sur 24 heures.
Ah, c'est bien.
Plus de 850 000, ça veut dire que
ça vole.
Alors pour situer, parce que pour les gens au niveau nautique, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'il fait en 24 heures un Paris-Rome. Pour situer géographiquement.
24 heures Paris-Rome.
Paris-Rome, ça fait une moyenne de 63 km/h. Il a battu son propre record. Et sur l'eau, c'est c'est même dangereux d'ailleurs, parce que là, on peut pas dormir. Hein.
Donc, très grande année de voile.
Excellente année.
Super année. Ça va être difficile de faire aussi bien en 2018. Il y a la Route du Rhum à la fin de l'année.
Il y a la Route du Rhum,
Saint-Malo, la Guadeloupe.
Voilà, il y a encore des compétitions. Alors on va rentrer sur des choses un peu plus classiques par équipage, avec des bateaux qui sont comme la catégorie IMOCA, donc les catégories qui sont un peu plus finalisé, terminé, où il n'y a plus d'évolution technique possible, à moins que le règlement change. Donc on va rester sur des choses que l'on connaît déjà. Et puis, de toute façon, ça va continuer à évoluer avec des bateaux qui vont être mis en chantier pour le prochain Vendée Globe, puisque ça commence maintenant.
Très bien. Merci Denis. On va bien faire une émission sur un bateau un jour, nous. Hein. On est partant. Voilà. Ok. Allez, on en vient avec Gilles Schmitt. Alors d'abord, pour dire qu'au foot américain, eh ben, les Patriots ont gagné la grande finale du Super Bowl, 34-28 après prolongation face aux Falcons. Alors Gilles, le ballon ovale, l'équipe d'Angleterre qui remporte le tournoi destination, la France qui termine troisième après le match le plus long de l'histoire, 100 minutes. Hein. Victoire 20-18 pour l'équipe de France. On espérait que bon cette troisième place marque un petit mieux pour le rugby français. Ça n'a pas été le cas, puisqu'ensuite l'équipe de France battue trois fois donc par l'Afrique du Sud en l'été, et puis aucune victoire dans la tournée d'automne, hein, même un match nul contre le Japon 23-23. C'est ce qui amène que la destitution de Guy Noves et son remplacement par Jacques Brunel. Le rugby français est toujours très moyen depuis 2011.
Le rugby français est très moyen. D'abord, on va recommencer depuis le début. Je tiens à présenter tous mes voeux.
C'est bien Gilles,
tous mes
c'est vraiment
l'année. Et je suis ravi d'être accueilli ce matin parce que je suis à côté de Géraldine. Ouais. C'est toujours très sympa. Voilà. Maintenant, revenons à des considérations plus sportives. Oui, effectivement, le rugby français, je veux dire, est pas très bien. Et puis, un certain nombre d'années. Effectivement, il y a eu un excellent match contre le Pays de Galles qui restera un match historique, au moins dans sa qualité.
C'était le meilleur résultat depuis, je crois, 2011 dans le tournoi destination, meilleur classement quand même, troisième. Hein, on s'attendait un petit mieux, puis bon,
mais
c'était un faux de paille. Quoi.
On s'est fait un petit peu, on s'est fait rattraper, et là, les quatre matchs qui ont été d'abord, premier match, une claque, hein, contre la Nouvelle-Zélande, parce que même si la deuxième mi-temps du match.
Ils ont géré la Nouvelle-Zélande.
Ils ont géré, ils jouaient plus, ils étaient plus là. Tout simplement, il y a eu une à deux divisions d'écart. Les deux autres matchs étaient un peu le sauf qui peut. Même le match de Lyon était un peu une illusion. Par contre, là, il y a eu une claque aussi, la deuxième. C'était c'est une défaite morale, hein. C'est contre le Japon.
Et si les Japonais ont un buteur, ils gagnent le match, hein.
Et si les Japonais ont un buteur, pour eux, c'est une demi-victoire. Mais nous, par contre, c'est aussi c'est une défaite, mais plus morale encore que sportive, parce que ça veut dire que d'abord, d'une part, ça nous remet clairement à notre position, ça veut dire que le Japon arrive, je veux dire, remonté très fort pour préparer cette Coupe du Monde en 2019, et eux l'affrontent d'une manière extrêmement sérieuse, et ça veut dire qu'il faut remettre le rugby français à plat. À ceci près, c'est que nous avons un président avec charismatique, assez clivant, et là, en fin de compte, quand on parlait de la démission, enfin du licenciement de Guy Noves.
C'est une grande première dans le rugby. Voilà. Hein. On fait ce qu'on fait dans le foot maintenant.
Je vois pas pourquoi on serait exempt. Il n'y a pas non plus une bulle autour du rugby. Il y a des flux d'argent, il y a des problèmes d'égo d'hommes, de femmes bientôt. Là-dessus, on n'est pas épargné. Je pense que Guy Noves était sur la sellette dès la nomination, l'élection de la porte à la présidente de la Fédé. Ça, je crois que tous ceux qui connaissent le rugby le savent aussi un petit peu. La pression qui a été mise en fin juin sur les fameuses trois victoires attendues était tout simplement, je veux dire, c'était illusoire, dans le sens où on savait particulièrement que la tournée pouvait pas extrêmement bien se passer. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec cette défaite. Effectivement, ça manque d'élégance, parce que Guy Noves, ça reste quand même un monsieur du rugby. Je pense qu'on aurait pu s'épargner ce type de qui va maintenant alimenter tout le tournoi, parce que là on est parti pour une procédure qui va durer au moins plus d'un an. Les médias, vous allez largement relayer, c'est fait. Je pense qu'on aurait pu s'exonérer de ce type de... Bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut préparer le tournoi 2018 avec Jacques Brunel, que tout le monde connaît. C'est un homme d'expérience. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout simplement, de mettre en place une équipe commando pour limiter la casse. Et puis d'arriver, au Japon pour là aussi faire en sorte, sachant quand on connaît la poule qu'on a au Japon, ça va pas être une partie de plaisir. Et en simultané, moi il me semble qu'il serait opportun, effectivement, d'aborder les choses sereinement, mais ça paraît difficile dans le climat actuel, pour préparer la 2013 qui se passera à Paris.
Alors justement, c'est la bonne nouvelle. Donc 2023, c'est ce que j'allais poser. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. La France n'était pas favorite pourtant pour avoir ce mondial. Hein.
Oui, alors ça, c'est un des paradoxes de notre équipe des nouveaux dirigeants. Effectivement, on n'était pas du tout favori. C'est l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui l'était. Bon, qui devait décrocher. Ils l'ont d'ailleurs super mal pris. Bah, ils sont spécialement bien comportés, je veux dire, au Stade de France. Pour une petite histoire, ils ont refusé de respecter le protocole. Et c'était les petits rambolitains de l'école de rugby qui devaient remettre, à la fois entourer le stade, remettre des maillots. Ils ont refusé le protocole parce qu'il y avait marqué France 2023. Ouais. Ils ont pris ça quand même comme un pied de nez. Bon, bref, ça, c'est complètement anecdotique. Petite histoire, les petits rambolitains feront France-Irlande. L'école de rugby sera au match de France-Irlande. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le rugby français. À ceci près, ça sera une bonne nouvelle si c'est bien, je veux dire, organisé. Ça, je ne me fais pas trop de doute. Mais si l'équipe nationale fait une belle prestation. Ouais. Si c'est pour pas passer le premier tour...
Bon, il reste 5 ans quand même. Hein, bon.
Oui, il reste 5 ans. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Entre autres, la formation des jeunes... La vraie question, c'est aussi de se poser les questions, le budget dans les clubs, la formation des entraîneurs, c'est aussi la présence de trésorerie dans la composition d'équipe, d'avoir certains dimanches jusqu'à 13 étrangers. Ça va. Dernièrement, il y a eu encore un match, 26 étrangers sur le terrain, ce qui n'a plus aucun sens. Voilà. Je rappelle que 300 Sud-Africains de niveau national jouent dans le championnat français. Je ne parle pas des Néo-Zélandais et d'autres étrangers.
Alors justement, au niveau des clubs, donc, les Saracens gagnent la H-Club en battant Clermont 28-17, deuxième succès consécutif. Le Stade français sauve l'honneur en battant Gloucester donc, dans le change européen, c'est l'équivalent de l'Europa League, hein, donc 25-17. Et puis Clermont obtient enfin un deuxième top 14 en battant donc Toulon 22-16. Est-ce que ça veut dire qu'on compense à travers les clubs notre défection au niveau de l'équipe nationale?
Oui, enfin, l'un est le début de la réponse de l'autre. Hein. Effectivement, on a de belles compositions d'équipes, mais enfin, toujours pareil, combien de jeunes étrangers? Moi, je rappelle simplement, je suis parti d'une génération, j'étais voir Racing Toulon, d'accord? 80% des jeunes qui étaient sur le terrain étaient des jeunes issus de l'Île-de-France. Saint-Germain, Meaux, je pense à Omenel, je pense à Olafon, je pense à Serrières, au tas de gens qui étaient tout simplement de Gennevilliers, de Meaux, de Chili Mazarin, Momo Lenao qui étaient piliers. 80% et faisaient partie de. Aujourd'hui,
c'est l'inverse.
Il y en a plus. Il n'y a plus un francilien.
Tiens, Gilles, aux victoires sportives d'Île-de-France du Conseil régional, on a interviewé le président de la section rugby de Massy. L'interview, elle est en podcast. Ils ont des ambitions pour monter en top 14 en 2020. Voilà. Peut-être une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais ils ont bien vu qu'ils ont fait aussi un peu l'ascenseur entre la Fed 1 et la Pro D2. Parce que là aussi, il faut avoir une infrastructure. Et puis, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on a aussi les moyens d'avoir un troisième club dans le top 14 en région Île-de-France, voilà, il y a un certain nombre de choses. Parce que des clubs comme des clubs franciliens qui sont dans le top 14 doivent absolument avoir l'appui de la région, des départements. Ça peut pas être. Ça doit être bien sûr des investisseurs, je veux dire, privés, mais il doit y avoir aussi des investisseurs institutionnels.
Tiens, vous parlez de Géraldine, ça va y faire plaisir, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde féminine cette année. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée en battant l'Angleterre 41-32. L'équipe de France termine 3e en battant les USA 31-23. Voilà.
C'était une super Coupe du Monde.
Oui.
Très belle. On aurait dû faire la finale. Hein, si on avait battu les Anglaises, il manquait pas grand-chose pour les battre.
D'accord. Allez, on change de ballon. On passe au ballon rond maintenant avec Benjamin et puis ceux qui veulent, José et puis Francis. Monaco champion de France, donc 2016-2017 devant le Paris Saint-Germain, qui sauve sa saison en gagnant la Coupe de la Ligue 4-1 contre Monaco et donc la Coupe de France contre Angers 1-0. On a eu un super championnat, hein, Benjamin. On s'est régalé. Beau champion Monaco et Paris Saint-Germain, beau deuxième qui termine avec un nombre de points supérieur aux années où ils étaient champion de France.
Oui, effectivement, on a eu une belle saison. Monaco, qui est quand même l'équipe surprise, vu le budget de départ du Paris Saint-Germain, qui était archi favori. Personne n'aurait mis une pièce sur Monaco en début de saison. Effectivement, ils ont su s'imposer avec la manière. Faut pas oublier qu'ils ont fait un parcours magnifique en Ligue des Champions avec une demi-finale.
Oui.
Avec l'équipe qu'ils ont, personne ne les voyait en demi-finale. Une grosse saison de Monaco, effectivement.
Et en Coupe de France, donc quand même, PSG qui sauve sa saison. Ouais. On va quand même rappeler que nous, on a eu l'occasion de voir quand même deux matchs. Hein, la victoire de Caen à Sainte-Geneviève-des-Bois 3-0. Et puis Fleury-Mérogis qui avait battu Brest 2-0 en 32e. C'était deux temps forts sur le plan donc, régional de la Coupe de France. Mais Paris, finalement, fait le doublé. Coupe de France, Coupe de la Ligue.
Oui, Paris fait le doublé en course pour battre un record et être quatre fois vainqueur de la Coupe de France s'il gagne cette année. Au niveau local, féliciter Sainte-Geneviève et Fleury qui ont compté en 32e. Fleury d'ailleurs qui joue cet après-midi en 32e de finale contre Bicham, qui a l'occasion de de rejoindre les 16e de finale pour la deuxième saison consécutive pour un club de National 2. C'est c'est quand même assez fort.
Voilà, puis on va rappeler que Chelsea en Angleterre, Real de Madrid en Espagne, la Juventus de Turin en Italie et le Bayern de Munich ont remporté leur championnat. Au niveau donc cette saison, Paris est champion d'automne, Monaco, bon, ils sont un peu moins bien. On peut s'acheminer vers un titre du PSG qui a abordé la première moitié de la saison avec un bel avantage, 9 points d'avance.
Paris, on peut le dire, Paris est déjà champion, Paris va se consacrer... sur la Ligue des Champions, sur son affrontement face au Real de Madrid. Avec 9 points d'avance, je vois pas ce qui peut arriver à Paris. Surtout le niveau, aujourd'hui, il n'y a pas réellement un dauphin qui se dessine. Il y a 3 équipes derrière qui se battent pour la deuxième et troisième place.
Surtout que le Real, cette année, ils sont un peu moins forts que
les années précédentes.
Alors, juste, je vais rebondir sur ce que disait notre ami sur le rugby. À titre de comparaison, ou l'inquiétude dans le rugby, c'est qu'au niveau de l'Angleterre, c'est le championnat phare, qui est le niveau qui a le plus de moyens, mais par contre on regarde qu'au niveau de la sélection nationale, les Anglais ne sont jamais placés, on les attend toujours et au mieux ils seront en quart de finale, donc à titre de comparaison, c'est ce qui se passe en France, je pense.
Alors au niveau des Coupes d'Europe, ça a été l'année donc du Real qui remporte la 12e Ligue des Champions en battant la Juventus donc de Turin en finale très largement 4-1. Ça fait de Ronaldo le 5e le ballon d'or de la saison, 5e ballon d'or. Monaco, l'a dit donc Benjamin, arrive en demi-finale de cette Ligue des Champions et puis la honte c'est le PSG quoi. Paris Saint-Germain éliminé en 8e de finale, ils font le match de leur histoire 4-0, match peut-être le plus abouti de leur histoire sur le match aller et puis battu très largement 6-1, match retour dans les conditions que l'on sait. C'est pas une faute professionnelle.
Alors pour revenir sur la victoire du Real, c'est la première année la première fois qu'une équipe conserve son titre en Ligue des Champions sous les ordres de Zinedine Zidane, il faudrait quand même le rappeler, qui vient d'enchaîner je crois 5 trophées en 18 mois avec récemment le titre de vainqueur de la Coupe Intercontinentale. Et par rapport à Paris, oui, effectivement, ils avaient fait un super match aller. Alors aujourd'hui, à ce moment-là, personne ne voyait Paris se faire éliminer. Bah voilà, les Français, ils se font remarquer des fois. Et là, ils se sont fait remarquer avec cette humiliation à Barcelone. Surtout quand on voit Barcelone, cette année-là, c'était pas le grand Barça qui se fait éliminer en quart de finale derrière contre la Juve. J'espère pour eux qu'ils ont appris de leurs erreurs, puisqu'ils ont un adversaire qui est assez coriace. Surtout que le Real est quasiment hors course en Liga.
Le PSG s'est qualifié là pour. Voilà. Donc
on va dire quand même que sur ce match-là, l'arbitre avait été moyen.
Oui,
quand même,
mais bon, on en a parlé.
L'arbitrage a été moyen. Ceci dit, juste pour rappeler par rapport à un match.
On a parlé dans tribune foot match.
3 buts en 10 minutes, c'est juste une faute professionnelle.
Ouais, je crois que c'est un peu des deux. Hein, c'est un mélange des deux qui explique le fiasco du PSG. On va simplement dire que dans la deuxième, donc dans cette saison 2017-2018, donc le Paris Saint-Germain a obtenu cette qualification pour les huitièmes de finale, ils vont tomber sur ce qu'on pouvait tomber de pire, le Real de Madrid. Monaco n'a fait que de la figuration, éliminé au premier tour. Et puis donc Nice, Marseille et Lyon se sont qualifiés donc pour l'Europa League pour les tours suivants, les 16e de finale, en ayant donc notamment terminé chacune deuxième de leur poule. En Europa League auparavant, Manchester United s'était imposé en finale devant l'Ajax 2-0. Lyon était arrivé quand même en demi-finale, battu par cette même équipe d'Ajax. Oui. Donc ça a été la meilleure saison des clubs français depuis 2003-2004.
Oui, on s'y attendait pas, on attendait Paris assez loin en Ligue des Champions. Mais finalement, on a pu voir une équipe en demi-finale de Ligue des Champions, Monaco, et une en demi-finale de Europa League. Donc sur un niveau global, c'était bien. Ça nous a permis de conserver notre 5e place au niveau UEFA.
Voilà, puis on va rappeler pour l'équipe nationale que l'Allemagne a remporté la Coupe des Confédérations contre le Chili 1-0. C'est un beau doublé après donc la victoire en Coupe du Monde 2014. Et naturellement, la France a assuré sa qualification directement pour ce Mondial 2018. Malgré une défaite en Suède, donc 1-0, malgré un nul contre le Luxembourg 0-0, l'équipe de France est somme toute assez facilement qualifiée. L'Italie sera absente de cette Coupe du Monde. Elle a une première depuis 1958, éliminée au barrage par la Suède 1-0 et 0-0.
Donc la France s'est qualifiée logiquement vu la constitution du groupe de départ qui était assez moyen. Pour une fois on n'est pas passé par les barrages, donc on s'en contentera. Il faudra sûrement élever le niveau, il faudra que Deschamps arrive à trouver l'osmose entre les anciens et la nouvelle génération qui commence à percer. Et c'est sûr que l'Italie qui est pas en Coupe du Monde, c'est assez notable. Je pense que ça fait un... Je pense que c'est la première fois qu'il...
Ça va faire drôle, quoi. Depuis 58.
Depuis 58, exactement. Ah,
voilà. Et donc, l'équipe de France qui jouera donc, dans le groupe du Pérou, l'Australie et le Danemark. C'est un groupe, somme toute, très largement abordable.
Donc, groupe très abordable. Il faudra se méfier... Il faudra se méfier des adversaires à partir des huitièmes des finales qui risquent d'être l'Argentine ou la Croatie.
Voilà, et puis on vous dire donc que le Cameroun a remporté la 5e CAN hein, devant l'Égypte donc 2-1 et que bah on mis un terme à leur carrière quand même, des joueurs aussi prestigieux que Kaka, Pirlo, Lampard, Francesco Totti et Xavi, ils ont pratiquement mis un terme à leur carrière de footballeur de haut niveau. Allez, la pub, la musique, et ensuite, oui, très
juste
vite.
Je précisais que George Weah est le premier joueur de foot à devenir président du Libéria.
Ouais. Là, on bifurque un peu sa politique. Allez, on y va.
Ah, c'est pas mal, ça.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Bienvenue au Son Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant Son Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Vivez votre région.
Auparavant, avant de
faire le lien donc entre deux, de finir sur 2017, faire le lien avec 2018. C'est la première grande épreuve aujourd'hui donc sur 2018 dans notre région. C'est le marathon des Yvelines organisé par Patrick Bonneau à Cernay-la-Ville, 5e édition. Donc pour le marathon, on est parti à 8h45. Pour le semi-marathon, on s'était lancé à 9h15 et pour les 10 km à 9h45. Départ et arrivée au stade de foot de Cernay-la-Ville. On en reparlera naturellement la semaine prochaine avec Patrick Bonneau parce qu'on va se rendre dans cette épreuve juste une fois l'émission terminée. Hervé, naturellement, chaque année, on a notre lot de disparitions. Le monde du sport n'a pas été une nouvelle fois épargné cette année.
Non, malheureusement, ouais. Cette année, il y a eu beaucoup de grandes figures du sport qui nous ont quittés. Alors peut-être la plus connue d'entre elles, sans aucun doute, c'est Raymond Coppa.
Oui, on l'avait rencontré puis interviewé sur Rambouillet il y a 3 ans.
Voilà, il était venu dédicacer un livre dans un supermarché à Rambouillet il y a quelques mois. Raymond Coppa, on va le rappeler, hein, c'est la même image pour les générations d'aujourd'hui de Zidane ou de Platini pour celle d'avant. Voilà.
Et il part après deux grandes icônes du sport, hein, qui étaient donc Mohamed Ali puis Johan Cruyff.
Oui, quelques mois après. Voilà. Raymond Coppa, Ballon
d'Or. C'était la même dimension. Hein.
Ballon d'Or 58, et puis il a joué dans les deux plus grands clubs mythiques de l'époque, le Stade de Reims, et bien sûr après le Real Madrid avec Di Stefano, Puskas et toute la carrière qu'on connaît pour Raymond Coppa.
Alors dans le foot, sont partis aussi Zachary Noah, Stéphane Paille et puis le charismatique Loulou Nicolas.
Ah oui, Loulou Nicolas, bien sûr. Voilà, on l'aime ou on l'aime pas parce que c'est une figure emblématique du foot français. Je pense qu'il y a assez peu de dirigeants en France qui ont autant donné pour le football que Loulou Nicolas, à tous les niveaux d'ailleurs.
Oui. Pas que dans le foot.
Voilà. Dans beaucoup de sports. Il a commencé
par le foot. Il n'avait pas besoin de ça pour
avec,
vivre.
Avec la baïade, la paillade, mais c'est vrai qu'il a fait énormément.
Il y avait le basket, il y avait le rugby.
Il a fait énormément pour le sport régional là-bas, du côté de Montpellier. Mmh. Et notamment le football avec Montpellier, avec lequel il avait remporté un titre de champion de France un peu au nez et à la barbe de tous les grands clubs français.
Une collection de maillots de tous les sports. Parce que
un musée du sport absolument hallucinant chez Loulou Nicolas.
Alors, en vélo aussi, ça n'a pas été. Malheureusement, le monde du vélo n'a pas été parié avec les décès de Ferdi Kubler, Roger Valkoviak, Roger Pinjon, Michael Scarponi, Henk Verbruggen et Albert Bouvet. Et puis, beaucoup aussi d'accidents cette année, Olivier, dans le vélo.
Bah sur la route, ça devient de plus en plus dangereux, hein, les conditions de course. On voit Scarponi qui était décédé à suite d'une étape. Et donc, dans le monde amateur, beaucoup de coureurs sont décédés. On a dépassé les plus de 20 coureurs décédés cette année dans le monde amateur. Et les professionnels, ils passent peu à côté. Hein, voilà, donc, ça devient de plus en plus dangereux. Une campagne qui est lancée par ASO, qui lance une grande campagne via le Tour de France, de respecter les distances, respecter le code de la route. Hein, c'est 1m15 à côté d'un coureur. Donc une grande campagne qui est lancée pour essayer de diminuer ce phénomène.
Voilà, alors en ski, décès de Jean Warnet et de David Poisson, un décès accidentel. En athlétisme de Jean Pozzogut, en tennis de Jérôme Colmar et Anna Novotna. Angèle Nieto, tiens, et Michael Eden, aussi en moto. Et puis le rugby aussi, Gilles, hein, avec Elise Lester, Vander Verstuizen, Eric Melvin, Colin Mix, donc des anciens grands champions. Frédéric Fort pour le basket, hein, c'est il y a quelques jours. Hein, et puis en boxe, un mythe aussi, Jacques Lamotta et Angélique Duchemin.
Jacques Lamotta qui avait combattu contre Cerdan, voilà, ça remonte à loin, mais c'est un personnage un peu mythique de la boxe. Voilà.
Et puis en haltérophilie, donc Naïm Souleymanoglou, 50 ans.
Voilà, lui qui avait commencé un destin particulier, qui avait commencé sa carrière en devenant champion du monde, d'abord pour son pays de naissance, la Bulgarie, et qui ensuite avait accumulé de multiples titres de champion du monde pour son pays d'adoption, la Turquie.
Voilà, et puis on voulait aussi accompagner les décès de Jean Rochefort qu'on avait souvent rencontré dans la région sur les concours de sport équestre. Il avait même lancé le Téléthon en 1995 au Perret. Et puis s'associer aussi à Jean Dormesson qui était un grand passionné de sport, de ski, et puis Johnny Hallyday naturellement, hein, qui avait fait le Dakar et puis qui était aussi un passionné de boxe. Et puis quelques confrères aussi qu'on connaissait, qui étaient venus à ce micro certains, comme André Alphen et Jacques Marchand, et puis aussi Jérôme Bernardet ou Bernard Spender. Voilà donc pour ceux qui nous ont quittés, Hervé, cette année.
Oui, c'est vrai que cette année il y a eu beaucoup de grandes figures du sport qui sont disparues.
Dans le monde du foot et dans le monde du vélo, des anciens vainqueurs du Tour, il y en a eu cette année.
Oui, peut-être un aussi, je ne sais pas si on l'a cité ou je l'ai peut-être loupé, c'était pour les anciens René Vignal.
Oui.
Voilà l'ancien gardien de l'équipe de France de football qui est décédé également cette année.
Voilà, allez, il nous reste 3-4 minutes. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2018 pour cette année sportive? On va vivre une année exceptionnelle en matière de sport.
Hervé, oui, avec deux gros événements.
Un tour de table rapide.
La Coupe du Monde De foot, voilà, oui, oui, oui. Pour aller en Russie. Et puis, avant, il y aura en mois de février les Jeux Olympiques d'hiver en Corée.
Bon, vous êtes réquisitionné pour les Jeux d'hiver. Hein.
Oui, oui, j'ai bien compris.
Donc, vous allez potasser tout ça. Hervé, Denis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2018? De belles compétitions?
De belles compétitions et de la préparation de nouveaux challenges sur la mer, parce que ça s'annonce très fort aussi avec des nouveaux bateaux.
Bon, vous viendrez nous en parler. Pas de problème. Géraldine, que le sport féminin se mette à nouveau en valeur comme d'habitude, et puis peut-être des bons résultats de nos volleyeurs et volleyeuses.
Exactement, que les femmes se mettent encore à l'honneur et qu'on les fête comme il se doit. Et puis on va suivre aussi, comme on a dit, nos amis du hand à Ono pour qu'elles soient encore championnes de France cette année. Donc on va être avec elles encore.
Très bien. Bon, Gilles, que l'équipe de France de rugby gagne le tournoi.
Victoire d'un tournoi et victoire d'un Tour de France par un Français, une équipe de France championne du monde.
Du monde
football,
et qu'on gagne Roland Garros,
et puis champion olympique de ski. Voilà.
Comme ça,
ça c'est pour l'entrée, on verra plus.
José, que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions.
Que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, oui, bien sûr, naturellement. Et surtout que l'équipe de France fasse un beau parcours en Russie et qu'ils aillent le plus loin possible et voir la gagner, ça serait bien.
Stéphane, qu'on vive une belle saison de Formule 1, pourquoi pas un beau Grand Prix au Castellet.
Beau Grand Prix de France, beau troisième dimanche du mois, les rendez-vous de la Reine. On va avoir 12
éditions.
Et qu'un
Français gagne enfin un Grand Prix de Formule 1.
Qu'un Français gagne, pas enfin, mais gagne à nouveau, on va dire, un Grand Prix de Formule 1. Et puis voilà, de belles courses à venir. Mais bon, moi je suis confiant là-dessus.
Bon, Francis, qu'on ait des beaux pronos hippiques pour gagner un peu d'argent.
Oui, le dernier pronos, c'est pas trop mal.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2018 en matière de sport?
Coupe du monde de foot. Et puis j'aimerais aussi, que je rejoins un peu Gilles, qu'on change un peu les formations de jeunes dans le rugby français.
Très bien. Hervé, très brièvement.
Deux choses. Les gros Roland Garros pour les Français, je pourrais y compter. Moi, je pense plus à une Coupe Davis. Je pense que c'est jouable aussi.
C'est possible.
Et puis je vais faire local. Moi, je pense beaucoup aussi à Antoine Guibaudot, notre numéro 1 au club, qui est numéro 1 français. Et j'espère une bonne saison 2018.
Bon, Benjamin, qu'est-ce qu'on peut espérer?
Si on gagne la Coupe du Monde, j'espère un ballon d'or français.
Ah oui,
avec
pas.
Mbappé. Et puis, je crois bien à une victoire sur le tour français cette année. J'ai confiance en eux.
Pourquoi pas? C'est un bel été.
Surtout si Froome n'est pas là.
C'est un bel été. Olivier?
Oui, je pense à un bon Tour de France avec de grands espoirs pour les Français. Il y a un bon parcours de Paris-Nice qui sera dévoilé mardi prochain. Oui,
mardi, vous y serez, je crois.
Voilà, donc, mais surtout, le Tour de France, je pense, une année à espoir pour y aller.
Eh bien écoutez, madame, messieurs, merci d'avoir fait le lien entre cette année 2017 et 2018. On va remercier Jean-Pierre d'avoir été très brillamment aux manettes ce matin. Et puis naturellement, on continuera à vous faire vivre l'actu sportif tout au long de cette année 2018. La semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes, 10h-11h. Donc on parlera du Red 28 et puis on ira du côté du marathon, naturellement, des Yvelines avec Patrick Bonneau. Et puis on continuera donc à vous faire vivre l'actu sportif tout au long de l'année sur l'antenne d'Hervé. Merci à tous et à toutes. Salut, bon dimanche.
National et international dans Tribune Sport avec Philippe Carnut.